Jean insiste, on va voir un peu. Donc.
Cinq fois, il dit je vous écris parce que, ou afin que, ou etc. Voilà. Vraiment, nous écrivons, nous, enfin, on va lire ça. C'est assez bizarre qu'il insiste comme ça, et donc c'est important. Et ça permet en fait de structurer le texte. Chaque fois qu'il dit je vous écris quelque chose, c'est une partie. La première, ben, c'est. Il écrit pour une joie parfaite. Donc c'est au début de la lettre, c'est les quatre premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà. Donc, dans cette première partie, il rend témoignage à la vérité, hein, donc en fait à Jésus, et si vous relisez par exemple aujourd'hui, dans la semaine, le premier chapitre de l'évangile de Jean, il y a un peu des parallèles, c'est un peu le même style pour démarrer l'épître et l'évangile. Donc il rend témoignage à la vie manifestée en Christ, hein, la vie était manifestée, pour que les croyants partage la communion. Voilà. Vous soyez en communion avec nous. Alors nous, c'est... Il ne parle pas de lui à la première personne du pluriel, hein, je vous rassure. C'est les apôtres, en fait. Voilà. Et nous écrivons ces choses. Pourquoi ? Pour que notre joie soit parfaite.
Ben, celle de Jean et celle de... celle de tous les apôtres et évidemment celle de ses auditeurs. Et ça, c'est une première partie, c'est l'introduction où on démarre. Donc c'est une première raison d'écrire, c'est pour que la joie soit parfaite. Dire un peu éloigné, non. Parce qu'à partir du moment où il sait que les croyants sont en communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, hein, que la vie, qu'on a reçu le témoignage de la vie manifestée, à ce moment-là, ça lui suffit. Ça lui suffit pour être plein de joie de savoir ça. Donc ça, c'est une première raison d'écrire. Une deuxième raison d'écrire, c'est bien plus petit. Si vous avez besoin, prenez votre Bible. Donc ça se poursuit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Donc ici, Jean décrit la place du péché dans la vie du chrétien. Ben, les chrétiens sont pécheurs, voilà, il y a des péchés dans leur vie. S'ils disent qu'ils n'ont pas de péché, ben, ils sont menteurs, ils sont fait un péché. Belle démonstration. Mais il écrit ça pourquoi ? Pour qu'on ne pêche pas. Voilà. Donc même si on sait qu'on a des péchés dans notre vie, c'est pas une raison pour en faire. Voilà. Et nous avons le pardon de Jésus-Christ le juste, hein, qui est notre avocat. L'avocat, c'est celui qui est à côté de vous au tribunal, vous aide à vous défendre. Ben, Jésus-Christ, en étant mort à notre place sur la croix, ben, fait qu'au tribunal, ça va se passer un peu mieux pour nous que pour les autres, ceux qui n'ont pas encore, ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ en eux. Voilà. Donc, ici, il parle du péché, hein, de la lumière et du péché, pour que nous ne péchions. Ça, c'est sa deuxième raison d'écrire, c'est ne pas pécher et être pardonné. Et alors, une petite digression, vous voyez ici, première fois que ça apparaît, même petits-enfants. Donc ça, c'est, on va en parler, petits-enfants, c'est un, en grec, c'est technion. C'est un terme ici qui est utilisé de façon affectueuse vis-à-vis des chrétiens. Et on a un autre qui vient, c'est dans la suite. C'est bien aimé. Alors ça c'est agapetos. Donc agapé c'est l'amour, voilà. C'est quelqu'un qui est sujet d'amour. Et bah, de temps en temps, Jean il dit petit enfant, de temps en temps il dit bien aimé. Il alterne. Ça revient de 4, 6, 7 fois pour petits enfants et de 4, 6, 6 fois pour bien aimé. Donc quand c'est bien aimé, c'est plus quand il parle de l'amour en fait. Ouais, pas systématiquement, mais souvent c'est l'amour. Voilà, donc bien aimé, ici, il va parler d'un commandement. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est aimez-vous les uns les autres, vous aimez. Voilà. Donc nous allons lire la suite ici, donc, versets 3 à 11. Une troisième raison d'écrire, c'est de ressembler à Jésus. J'ai résumé ça comme ça. Voilà. Si nous gardons ces commandements, donc ces commandements, les commandements de Jésus, hein, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en Dieu, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Oui. Il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il dit c'est un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien. Donc, ça veut dire quoi? En fait, c'est un commandement nouveau qui est vrai en lui, qui est vrai en vous, car les ténèbres se dissipent, la lumière véritable paraît déjà. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on comprend de mieux en mieux ce commandement, et il y a des aspects nouveaux qui apparaissent. Mais c'est un commandement qu'on a eu dès le commencement. Quel commencement? Le commencement de notre vie chrétienne, voilà, de notre nouvelle naissance. De notre nouvelle naissance, nous avons compris, nous avons reçu ce commandement du Seigneur de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Alors, ce n'est pas dit explicitement ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais il y fait clairement référence en quelque part dans la lettre. On n'y passe ces détails. Lisez vraiment cette lettre, elle est extrêmement intéressante. En tout cas, ce sur quoi il insiste ici, le fait qu'il écrit, là, il faut ressembler à Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui. C'est vraiment ressembler à Jésus. Donc, il écrit ce comme chaque fois que je vous écris, grafo.
C'est fait le frère dans la foi.
Ah, bien sûr, oui.
On est tout à fait d'accord que la lettre ici est adressée à une église, donc c'est à des gens convertis. Et puis il n'y a pas le mot frère ici. Ah oui, celui. Ah, d'accord, celui qui aime son frère, oui. À commencer par là.
Commencer par là, mais nous devons aussi aimer ceux qui ne sont pas convertis. Mais je ne sais plus où ça se trouve, mais oui, il y a une gradation. C'est d'abord vers les frères de l'Église, mais aussi vers les autres. Je n'avais pas compris la question. Ça répond ? Donc,
voilà pourquoi il écrit. Une troisième raison d'écrire, hein, c'est de ressembler à Jésus. Il veut qu'il ressemble à Jésus, que ce soit vrai en nous, ce qui est vrai en lui.
Alors ici, vous n'avez pas peur du tout.
Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est le texte qu'on va analyser. Et donc, mais c'est parce qu'on va le lire en détail.
On va tous venir là.
En tout cas, lis juste les deux premiers. Je vous écris, petits enfants. Donc ici, il a parlé de bien-aimé avant, Agapetos. Il revient, il parle de nouveau Technion, petits enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà. Donc, pour une quatrième raison d'écrire, c'est que nous avons une nouvelle relation avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom, de Jésus-Christ. Et au verset 13, on en parlera après, je vous écris, donc il donne trois étapes. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et en fait, Père, on va le retrouver là, verset 14. Jeunes gens, on va le retrouver là. Et petits enfants, on va le retrouver, verset 18. En fait, le verset 13, c'est l'introduction en fait, de tout ce qui suit. Et alors, pourquoi est-ce que je fais une différence? C'est qu'ici, petits enfants, ici, n'est pas le même petits enfants que là. Et ça se voit pas en français. Mais en grec, c'est pas le même mot. Là, c'est technion. C'est vraiment, il s'adresse
voilà, oui, c'est ça. Et alors, les autres, c'est. Voilà. Ah oui, Padion.
Pédion. Pédion. C'est Pédion. Et il n'y a que deux endroits où c'est utilisé dans l'Épître, c'est vraiment ici. Donc, ici, c'est vraiment, il y a des pères, il y a des jeunes gens, et il y a des petits enfants. Et ça n'a rien à voir avec le mot petits-enfants qui revient. Et ça va être nous occuper jusqu'à midi, peut-être un peu plus souvent.
Voilà, donc on va lire après le texte en entier.
Mais il insiste bien, je vous ai écrit ces choses, de nouveau, je vous ai écrit ici, et je vous ai écrit, je vous ai écrit, chaque fois, c'est toute une
raison d'écrire.
Pas mal de faire plus gros.
Mais après on va passer en détail. Et alors à partir de ce moment-là,
donc ici, à partir du verset 28 du deuxième chapitre, il y a tout un développement. Et il va reparler de « je vous écris seulement sur la fin », donc au chapitre 5.
Verset 1 à 13.
Oui.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de Dieu, de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Alors il y a des choses qui sont un peu, qui paraissent un peu mystérieuses, entre guillemets. C'est quoi ces trois choses qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang? En fait, rappelez-vous, c'est le début et la fin du ministère. Au début, il y a le baptême. C'est l'eau. Il y a l'Esprit qui descend. Donc, l'eau et l'Esprit ont un premier témoignage. Jésus, il y a cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et Jean aussi était venu avec de l'eau. Mais, et c'est Jean qui a d'ailleurs baptisé. Et les disciples de Jésus ont baptisé. C'est écrit. Mais il n'y en a qu'un seul qui est mort sur la croix, et ça c'est la fin du ministère. Et c'est le sang. Jean baptiste, on n'est pas mort pour nos péchés. Même s'il y en a qui ont fait une religion avec Jean baptiste. En Irak, il y a encore une religion qui se réfère à Jean baptiste et où ils font encore des baptêmes, etc. Mais c'est assez bizarre parce que ça ne ressemble pas vraiment au Jean baptiste qui est décrit. Mais en tout cas, il se revendique de Jean baptiste. En tout cas, Jésus, lui, est venu avec le sang. Et les trois sont d'accord. Il y a une unité entre ce qui se passe dès le début jusqu'à la fin. Et l'esprit est encore à la fin. Entre tes mains, je remets mon esprit.
Ouais, c'est une blague. Et donc, ici,
pourquoi est-ce qu'il leur écrit? Donc, afin que vous ayez la vie éternelle.
Ça fait. C'est
acquis. Ah oui, que vous sachiez que vous avez. Afin de le savoir. Voilà.
Et il nous rappelle quoi? Tout le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage, parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau, le sang. Et c'est vraiment. Tout le thème ici, c'est vraiment le témoignage.
Il amène dans ce sens-là. Voilà. Et donc, entre. Le verset 28 du chapitre 2 et le chapitre 5, il y a quatre chapitres là
où il ne va plus dire « je vous écris ».
Il va parler de quoi?
De communion, d'amour, de justice et de vigilance. Et ça, c'est vraiment le corps de la lettre. Mais je ne vous en parle pas. J'essaie juste de vous alléger. Donc, ça c'est juste les deux premiers versets, on va vraiment les lire. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de ce nom. Là, c'est petits enfants, c'est technique. Ça, c'est juste la phrase introductive. Et il dit pourquoi il leur écrit. Vos péchés sont pardonnés, vous avez de nouvelles relations. Et je veux que vous le sachiez. Et au verset 13. Il détaille. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Le petit enfant ici, c'est pas le même. Et ça annonce la suite. Au verset 14, il va reparler de Père. Et ça va être assez rapide. Un verset, mais un demi-verset même. 3 versets et demi pour les jeunes gens, que va leur dire toutes des choses qui sont importantes. Et puis pour les petits-enfants, là, il y a un peu plus à dire. 9 versets. Et à partir du verset 28, il reparle de nouveau en technion. Donc il a fini cette partie-là. Et il parle de communion, d'amour, de justice et de vigilance pendant deux chapitres.
Voilà.
Alors, je ne suis pas en train de dire que nécessairement, parmi nous, il y a des mecs qu'on devra appeler père, d'autres qu'on devra appeler jeunes, enfin père ou mère, d'autres qu'on devra appeler jeunes gens et d'autres petits-enfants. Non, parfois, c'est des stades dans notre vie. Et, je ne suis pas sûr qu'une fois qu'on a atteint ce stade-là, on ne s'occupe pas des fois d'arrière.
Voilà. Mais en tout cas, il y a différents niveaux de maturité spirituelle. Alors, donc oui, les pères, ils sont caractérisés par quoi ?
Ils ont une communion avec le Seigneur. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, on va voir ça un peu plus loin. Les jeunes gens, ils sont caractérisés par quoi ? Ils ont triomphé dans des combats spirituels. Et les petits-enfants, bah, en fait, ceux qui n'ont pas encore triomphé. Mais ils ont juste connu le Père. Ils sont convertis, nouvellement convertis. Et ils ont donc cette relation.
Donc, penchons-nous sur les pères.
Voici le verset 13 et le verset. Donc le verset 13, c'est celui qui annonce l'Écriture. Et le verset 14, en fait, Jean a juste réécrit la même chose texto pour les pères. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Voilà, c'est tout ce qu'il a à leur dire. Alors c'est quoi le commencement ?
Celui qui est dès le commencement, pensez au début de l'épître que je vous ai fait lire.
Voilà. Ce qui était les premiers versets.
Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Donc c'est Jésus-Christ. Nos mains ont touché, pensez à Thomas qui a touché Jésus. Voilà. Il est très très concis. Donc il fait juste référence à Jésus-Christ. Pour lui, un père, celui qui a atteint ce niveau-là, c'est un chrétien qui a une relation intime avec Jésus-Christ. Et comme il est un père, un père, ça élève des enfants. J'aime bien le mot élever des enfants, parce que c'est à la fois élever dans le sens de faire grandir, les éduquer, et tout ça, mais c'est aussi les élever. Et ici, un père, c'est... C'est un chrétien qui va aussi prendre soin des chrétiens autour de lui. Une manière à faire passer différentes étapes de la vie spirituelle. Alors, y a un autre mot qui est utilisé, pas par Jean, mais par d'autres, pour parler de ça. On traduit par homme fait, parfait, c'est en grec c'est teleios, c'est quelqu'un qui est fini, qui est achevé. Il est achevé, il est fini, il est parfait. Il n'y a plus rien à y faire. Oui, mais tu peux hausser les sourcils, Jean-Louis. Il reste toujours un peu, très clair. Mais en tout cas, il est arrivé à un bon niveau de maturité. Voilà. Et donc on va aller voir dans d'autres passages ce qui est dit sur ces hommes faits, sur ces hommes parfaits. Donc là j'ai... Si ça existe, mais...
Oui.
Je vais te confondre. Voilà. Alors tout d'abord, Jacques, on va dans l'épître de Jacques. Je ne vous ai pas mis les versets pour pas être trop... fainéant, donc c'est deux pages avant Jean, peut-être 3, 5, 5. Chapitre 1, versets 2 à 4. Donc Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est quoi quelqu'un qui est parfait et accompli, qui ne faillit plus en rien? C'est quelqu'un qui est passé à travers l'épreuve et qui a su en tirer de la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et en plus, qui arrive à voir ça comme un sujet de jeu. C'est le bonus. Voilà, donc, un homme fait, parfait, c'est un homme qui a su traverser des épreuves. D'ailleurs, on voit déjà bien ici les jeunes gens. On vaincu le malin. Jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, donc il y a des épreuves. Et on va voir ça avec les jeunes gens. Donc ils sont passés. Ils ont passé l'étape jeunes gens et ils ont vraiment su en tirer la patience. Et ça a éprouvé leur foi. Donc ils ont une plus grande foi. Toujours dans l'épître de Jacques. Ça c'est au chapitre 3, c'était aussi pour l'anecdote, un chapitre que j'ai dû faire pour le concours biblique, c'était il y a l'année passée je crois, ou il y a 2 ans. Et donc, chapitre 3, versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, broncher, vous pouvez dire trébucher, si vous voulez. Ça a plusieurs sens. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tenir son corps en bride, donc, c'est l'image du cheval. Vous mettez un mort, il y a les brides, donc les rênes, et rien qu'avec 2 rênes, vous savez tenir tout le cheval, le diriger. Aujourd'hui, c'est la foire libre à Mont. J'ai mes nièces qui vont faire un spectacle à cheval et ils font passer le cheval partout et ils le veulent. Voilà. C'est la même image. Donc, c'est un homme qui sait contrôler sa langue afin de ne pas pécher en parole, d'autant plus s'il enseigne les autres. C'est pas nécessairement le cas, hein. Mais en tout cas, ceux qui se mettent à enseigner seront jugés plus sévèrement, c'est dit au verset. Donc, grande responsabilité. Autre aspect, c'est un homme qui sait juger. Ça, c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. J'ai pris 3 versets 20, 24 et 29 que je pioche dedans. Donc c'est un passage où on parle de parler en langue, etc. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Okay? Donc c'est homme fait, homme parfait. Et il détaille un peu plus loin, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques croyants, quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Oui, parce qu'on parlait du jugement juste avant. Hein. Il fallait être à l'égard du jugement des hommes faits. Voilà, donc c'est
encore une fois, hein.
Chapitre 14. J'ai lu le verset 20 et là je viens de lire le verset 24. Et maintenant je lis le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà. Donc des hommes qui sont parfaits à l'égard du jugement, c'est à la fois des hommes qui savent juger des nouveaux convertis, enfin juger entre guillemets des nouveaux convertis, en tout cas poser un verdict, enfin, ou un jugement, ou un diagnostic, c'est peut-être mieux encore.
Ouais.
Un convertis. un diagnostic, voilà, et lui dire une parole à propos. Et aussi par rapport à ce qui se dit, s'il y a des parlers en langue, s'il y a des prophéties, etc. Là aussi, pouvoir le reconnaître comme venant de Dieu ou pas. Interpréter, etc. Ou s'il y en a un qui interprète, ben, pouvoir dire l'amen à ce qui est dit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui juge, entre guillemets, en tout cas qui sait reconnaître, pas seulement quelqu'un qui réfléchit, mais qui sait reconnaître dans ce qui est dit, ou dans ce qu'il y a à dire, ce qui est de Dieu. Ce qui est dit ou ce qu'il a à dire à d'autres. C'est un homme qui est soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est dans la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. On parle d'un...
Colossiens,
chapitre 4, verset 12. C'est un collaborateur que Paul mentionne ici. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc les chrétiens de Colosse, ici, doivent être parfaits et pleinement responsables, en tout cas Epaphras prie vraiment pour cela. Et ça se traduit comment ? Ils persistent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il faut déjà la reconnaître, la volonté de Dieu, et puis aussi soumettre. Un avant-dernier point, dans la lettre aux Hébreux, c'est un passage assez long que je reprendrai tout à l'heure, parce qu'il parle aussi de gens adultes et de bébés. Donc c'est Hébreux chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 3. L'auteur dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Donc Hébreux chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 3. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est un peu la claque. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous n'êtes même pas petits-enfants, c'est bébé, quoi. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà, de nouveau ce terme-là, homme fait, homme parfait. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, on a parlé du jugement, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Donc ici, qu'est-ce qui caractérise un père, un homme fait, parfait, c'est qu'il est, donc il sait discerner ce qui est bien, ce qui est mal, discerner le bien et le mal. Et aussi, il n'y a pas besoin de reposer des points de doctrine fondamentaux, les œuvres mortes, la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu ? Non, je le sais. Et donc, bien sûr, un homme fait, parfait, n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il y a sur Dieu, hein. Dieu est infini. Je vous rassure, mais en tout cas, les grands points de doctrine, ils ne remettent pas en cause. Ils ne se lèvent pas tous les matins en se demandant est-ce que je vais croire pour Dieu aujourd'hui. Donc c'est clair pour nous. Et ils disent ah, tiens, j'ai oublié pourquoi est-ce que Jésus est venu mourir sur la croix. Je vais relire ça aujourd'hui. Mais non, non, c'est bien calé. Et un petit avertissement quand même, hein, les terres aux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, voilà, dit que en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Donc on peut très bien être assis depuis longtemps dans une salle de culte et ne pas avoir bougé d'un pouce, et même avoir reculé. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Et il leur dit, hein, vous êtes devenus lents à comprendre. Avant, vous compreniez plus vite. Maintenant, vous êtes devenus lents. On peut régresser dans la foi. et redevenir au stade où on a besoin de la panade, le biberon, voilà. Donc soyons en garde pour ne pas en arriver là. C'est pas parce qu'on est dans une salle de culte depuis longtemps que nécessairement on a grandi. Et un dernier point, ça c'est pour Tanguy. Je l'ai mis en rouge, Tanguy. Nous devons tous être des pères. Ah oui, ça c'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Donc c'est Paul qui le dit et c'est un peu la claque. Donc il détaille un peu ce qu'il y a dans l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef. Voilà. Donc il dit, hein, nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait.
Il y a des femmes là-dedans.
D'être humain, on va dire. Hein, pareil. Donc nous devons tous atteindre ce stade. Et vous ne dites pas, parce que je vous ai dit, ben, il y a les pères des jeunes gens. Oh, moi je vais viser adultes, jeunes gens. Hein. Adolescents, éternels. Non, c'est pas comme ça. Vous devez tous être des pères. Donc si vous croyez que vous avez du temps à perdre à rester bébé, comme l'épître aux Hébreux nous souhaite, hein, eh ben non. Il faudra bien arriver à ce stade-là. Pourtant, s'il y a des filles qui suivent. Et donc, tout ça, pourquoi ? Par la sanctification. Hein. Nous soyons... Donc, il a donné... Bon, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, voilà, pour le perfectionnement des saints. Pour nous rendre parfaits.
C'est la... Responsable aussi.
Oui, il n'y a pas de contradiction avec ça. Et donc, sanctifié, pour ressembler à Christ, hein, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour connaître le Fils de Dieu. Partager une foi unique, l'unité de la foi, avec ses pères, mais ici c'est pas P-E-R-E, hein, P-A-I-R-S, avec ses confrères, on va dire, ses frères, voilà. Il connaît la vérité, hein, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Le Père connaît les Pères connaissent la vérité et ils la professent dans l'amour autour. Voilà.
Donc ça, c'est l'objectif,
d'être un homme fait par. Ben, on va voir les autres stades. Et comme ça, on peut se situer. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de foi à venir s'asseoir dans une salle de culte ? Hein ? Non. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin ?
C'est vrai que le Seigneur.
Passons aux jeunes gens. Donc, dans l'introduction, Paul leur dit, voilà, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Et développe ça. Ici, je vous ai écrit, parce qu'il l'écrit là, je vous ai écrit, il ne va pas se laisser, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. Il détaille un peu ça. Voilà. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous.
Donc, ils sont forts ben, de la force que Dieu leur donne, et ils sont attachés à la parole. Elle demeure. Hein, Michael tout à l'heure a passé un passage, c'était dans Jean 14 ou Jean 17. Il a mis un verset et c'était demeure. Voilà, demeurer en moi, comme je demeure en Dieu, donc dans tout ce chapitre, Jésus parle vraiment de cela, c'est mono en grec. C'est demeurer, c'est rester dedans, c'est habiter, faire sa maison. Voilà. Et donc ils sont forts, ils sont attachés à la parole. Et ils ont passé à travers des combats. Mais cette force peut leur échapper. C'est pourquoi j'en détaille. Je lis les versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, Jean prend la peine de les mettre en garde vis-à-vis de ceci. Parce qu'ils ne sont pas encore à l'état de père. Et ils sont en fait sensibles à la tentation.
Jacques dit dans son épître, c'est Jacques chapitre 4 verset 4, je vous lis, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
C'est pas vraiment en lien avec ceci. Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde, vous n'aurez point l'amour du Père. Mais c'est même pas juste qu'il n'y ait pas l'amour, c'est vous devenez des ennemis. C'est vraiment opposé. Alors, non, mais c'était les tentations. Jean détaille les tentations. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il parle de trois étapes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie.
On peut faire deux parallèles. Le péché d'Adam et Ève. Je vous lis le passage. C'est assez clair. Donc c'est dans Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger,
agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est clair. Donc c'est vraiment les trois étapes d'Adam et Ève. Vif, vif. Bon à manger, agréable à la vue, l'intelligence.
Voyons le second Adam.
Tentation de Jésus. Là c'est moins clair, mais ça marche quand même à peu près. Le tentateur, donc c'est dans Matthieu chapitre 3, 4, verset 3 à 10. Le tentateur s'étant approché, donc Jésus a jeûné 42, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. La fin. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puis de moins spectacle. Un peu moins bien, mais aussi l'orgueil de la Bible, va te sauver. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, quelque part, les trois tentations de Jésus répondent aux trois étapes du péché d'Adam et Ève. Et donc, ces trois ressorts qui marchent encore très bien chez l'homme. C'est par là qu'il est tombé. Donc c'est par là que nous allons. Il y a la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ben, ça c'est dans le monde, c'est les tentations qu'il y a autour et il faut se battre. Et comment est-ce que Jésus y est arrivé? La parole. Et c'est pour ça qu'il le dit déjà ici. Que la parole demeure en vous. C'est comme ça. Mais il prend quand même la peine de leur dire, voilà, soyez vraiment attentifs à cet aspect-là. Le monde passe, la convoitise de ceci. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Les jeunes gens, à l'image de ces Jésus, fréquentent la parole de Dieu pour pouvoir résister à la tentation
en se soumettant à la volonté de Dieu. Vraiment, se soumettre à la volonté de Dieu.
Dans Jacques, donc je vous ai lu tout à l'heure le chapitre 4, verset 4, c'était adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. 3 versets plus loin, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous.
C'est ce que Jésus a fait, il a résisté et après le diable le laissa. Résistez au diable. Et comment, vous voyez comment Jésus a fait.
On a le temps d'examiner ce texte dans Matthieu. Voilà pour l'étape des jeunes gens. Petits enfants. Il y a pas mal de choses au début. Bon, ça va. Deux pages. Mais il y a pas mal de choses à lire.
Donc, ici, au début, je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. C'est comme ça qu'il a introduit. Et à partir du verset 13, à partir de verset 18, on va lire jusqu'au verset 27.
Donc là, Jean prend vraiment la peine de leur dire ça. D'étoffer.
Je ne l'ai pas écrit ici. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'il vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Donc la première caractéristique mise en avant, c'est
vous connaissez le Père.
Vous connaissez le Père. Et d'avoir une communion avec le Père et le Fils. Ça donne une joie parfaite à Jean. Je vous rappelle le verset verset 4. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Hein. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite.
Et donc, c'est ça qui réjouissait Jean au début de sa lettre et c'est pour ça qu'il poursuit là-dessus.
Ensuite, bon, on a vu que les jeunes gens avaient des combats spirituels et avaient réussi. Donc, ça se passe entre le stade enfant et le stade adolescent. Donc, les enfants, ils vont avoir des combats. Ça les attend.
Oui, vous avez vaincu le malin, les jeunes gens ont vaincu le malin, les petits. Ils auront encore à vaincre.
Ça va leur arriver. Donc,
comme les autres.
Étaient forts, hein. Ils étaient forts, ils sont forts, vous êtes forts. La parole demeure en vous, vous avez vaincu mal. Hein. Les enfants, ils ont encore cette étape-là à franchir. À devenir forts en Dieu, à ce que la parole demeure vraiment. Sur des enseignements, qui demeurent, oui, on va faire ça.
Et Jean a mis en exergue le malin ici, et ici il développe. En fait, le malin peut prendre d'autres aspects. J'ai regroupé les versets qui en parlent, donc c'est les antichrists.
18, 19, 20, Matthieu 22, le 23 et le 26. Alors, c'est écrit antéchrist, hein, mais en grec c'est antichristos, donc c'est contre le Christ. Anté, ça fait venir avant le Christ. Et l'antéchrist, donc il parle de deux choses. Il dit qu'il y a un antéchrist qui vient. Oui, il y a un antéchrist qui vient. C'est quelqu'un qui sera opposé à Jésus et qui fera des choses. Et Jésus en a donné, et dans l'Épître aux Thessaloniciens, si je me souviens bien, il y a des éléments qui ont. Mais il y a déjà des gens qui sont opposés à Christ, déjà du temps de Jean. Donc ça, c'est un personnage qui, oui, qui se trouve aussi décrit dans l'Apocalypse. Mais ça, c'est de tout temps. Alors, du temps de Jean, ils étaient sortis du milieu de nous, ils étaient sortis du milieu des apôtres. Ben, par exemple, rappelons-nous que le premier concile, le concile de Jérusalem, était causé par des juifs qui venaient de Jérusalem, qui sont allés en Turquie et ils disaient ben, vous pouvez reprendre leur pratique judaïque. Voilà. Ils étaient issus des, entre guillemets, des apôtres, ils font semblant un peu d'être des apôtres. En fait, nous sommes. Donc, la première chose, c'est qu'ils sont opposés à Dieu, parce que c'est anti-Christos, c'est anti. Voilà. C'est la signification première. Donc ils sont revendiqués comme apôtres ou comme ayant une certaine autorité. Ça, on a vu qu'à l'état de père, il faut pouvoir juger de tout. Et ils nient la divinité du Père et du Fils. Qui est un menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Et celui qui n'a ni le Fils n'a pas non plus le Père. Il nie sans s'en rendre compte. Même s'il dit juste que ben, Jésus n'est pas le Christ.
En fait, quand on est chrétien, on reçoit cette assurance que Dieu est un Père. Alors, ça nous indique quand même une formidable instruction, c'est que tous ceux qui se réclament de Dieu, mais qui ne savent, qui ne disent pas que Dieu est leur Père, eh bien, ils sont des antéchrists.
Et ce n'est pas suffisant. Ici, il faut reconnaître la divinité de Christ.
Oui.
À l'égal de la divinité du Père.
Donc, c'est voilà. Par exemple les Juifs qui n'ont pas reconnu Christ, ils sont encore à cette étape-là. Et quelque part, ils nient le Père, ils n'ont pas le Père non plus. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ça va de pair.
Et vous savez que ça courait dans l'Église, hein, un siècle après, même pas un siècle, Arius, un évêque de Syrie, a inventé ce qui est chez les témoins de Jéhovah. Dieu a créé le Christ a créé les hommes. C'est donc une hypostase, c'est-à-dire une créature intermédiaire. Il n'est pas vraiment Dieu. Et ça a régné dans des milliers d'églises avec Arius.
Et il y a même...
qu'il a fait l'armée de Constantinople pour persécuter les autres églises.
Et il y a même une autre position, déjà du temps de... Ça, j'ai lu dans un commentaire, déjà du temps de Jean. J'ai oublié le nom du gars. Mais en gros, le Christ était descendu dans Jésus avant, oui. Au baptême, et il était reparti avant sa mort. Avant la mort sur la croix.
Voilà.
Et ça, c'était... Enfin, j'ai pas retenu le nom. Enfin, voilà. Donc, il y avait déjà des ferments ou des débuts de.
Et l'islam a pris ses racines là-dedans. En Syrie, Khadija, la veuve, qui a accueilli le jeune homme de 16 ans, qui est devenu Mohammed de l'islam. Dans toutes les tribus où était Khadija, il y avait cette doctrine où le Christ n'était pas vraiment Dieu. Et quand elle l'a enseigné à Mohammed, le poison était parti. Oui, c'est du vrai poison, ça.
Et donc, ici, deux fois, je vous ai écrit, en plus déjà avant, hein, au sujet de ceux qui vous égarent. On peut être égaré, d'autant plus sensible quand on est à l'étape petite enfance. Et donc, il faut être attentif à ça. Une autre chose qui est mise en avant, c'est l'Esprit Saint. Là, j'ai repris les versets. Je vous ai écrit, donc vous connaissiez la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge vient en vous. Donc la vérité. Donc il y a la vérité et le mensonge hein, qui est mis ici en avant. Vous connaissez la vérité, aucun mensonge ne vient de la vérité. Au verset 27 aussi. La vérité, elle est véritable. L'onction qui vous enseigne toute chose est véritable. Elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. En lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en Dieu. Donc, lui, c'est à la fois le Père et le Fils. Puisque ce n'est pas spécifié, ça peut y avoir les deux sens. Selon les enseignements que l'Esprit Saint vous a donnés. Une deuxième chose, c'est. L'Esprit Saint éclaire notre connaissance de la vérité. C'est pas grave. Ce que vous avez entendu, la promesse qu'il nous a faite, c'est pas cette vérité. C'est ici. Donc ce que vous avez reçu de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc c'est la connaissance. Vous la connaissez. Et vous savez, cette reçu des enseignements, vous n'avez pas besoin qu'on t'enseigne, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Et une troisième étape, c'est que l'Esprit Saint nous enseigne.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'Esprit Saint nous enseigne.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être enseigné par d'autres. Hein. Rappelez-vous l'épître aux Hébreux là, qui nous secouait un peu et qui nous disait vous avez encore besoin que je vous enseigne différentes étapes. Voilà. Mais passé la conversion, le disciple n'a plus besoin d'être enseigné sur des sujets fondamentaux comme la divinité de Christ aussi. Que Jésus-Christ est mort pour lui, il n'y a pas besoin de cela. En tout cas, l'Esprit Saint l'établit en lui.
Celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ, qui est la vérité, quand il confesse le nom de Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit qui l'éclaire dans toute la vérité. On ne peut pas recevoir la vérité si on n'a pas accepté que Jésus-Christ rentre dans notre vie et son Saint-Esprit.
Oui,
donc,
oui.
Toutes les doctrines du commencement qui sont la nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit, la vie plénière dans l'Esprit et la communion avec les autres chrétiens, c'est tous les fondements du départ. Si on n'a pas les fondements du départ, on n'est pas dans la vérité.
Mais Jean ici prend la peine de nous mettre en garde contre les antéchrists qui peuvent introduire des dérives, parfois c'est subtil, et il met vraiment en avant l'Esprit Saint
pour être éclairé. N'oublions pas que disciple, c'est mathétès, hein, ça donnait mathématiques. Donc c'est celui qui a reçu un enseignement, un élève, un étudiant, voilà. Et le disciple doit grandir en connaissance, être enseigné. Donc il doit l'Esprit Saint, si nous l'écoutons, peut nous montrer que nous dérivons, il y a éventuellement des dérives, et nous aider à les discerner. En conclusion, donc trois stades de maturité. Il y a le petit enfant, celui qui n'a pas encore affronté des combats, et parfois. Je vous donne un petit exemple. chrétien qui dit « Ah, depuis que je vous connais, je n'ai que des ennuis. » Voilà. Bah, Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Mais le petit enfant, il doit savoir qu'il va avoir des combats. Et il doit s'attacher donc à la vérité révélée par le Saint-Esprit. Et il y a des antéchrists, des antichrists. Il y a les jeunes gens. Donc les jeunes gens, ils ont triomphé des combats. Ils restent sensibles aux tentations du monde. En plus de la parole, il doit s'attacher à discerner et à accomplir la volonté de Dieu pour vraiment traverser ces tentations. Et puis il y a le stade de père. Voilà, il jouit d'une communion profonde avec son Seigneur, c'est vraiment ce qui est dit. Il est en mesure d'élever ses frères. Et rappelons-nous donc Ephésiens, Tanguy, hein, ce dernier stade de père est un stade que chacun doit atteindre. Donc pressons le pas pour y parvenir le plus tôt possible. Pas perdre de temps pour le Seigneur. Nous n'aurons qu'une vie. On peut presser.
Merci beaucoup.
Pour pouvoir finir.
Merci.